Salut à tous, c'est Romaric, bienvenue dans Graffiti Cinéma.
Bonjour !
Ce mois-ci, notre thème, c'est l'ivresse au cinéma. Et donc, dans cette deuxième émission du mois d'octobre, on va se consacrer aux meilleures scènes d'ivresse du 7e art.
C'est magnifique.
Et comme toutes les semaines, on commence avec mon film préféré. On vient vous voir dans la rue où vous nous envoyez votre son sur notre page Facebook Graffiti Cinéma. Et on met en avant votre minute en tout début d'émission. Cette semaine, c'est Caroline Meunier-Leroy qui nous parle de Forrest Gump. On se retrouve juste après avec toute l'équipe au Campo Santo, enregistré pendant l'Orléans Beer Festival, et avec évidemment une bière ou deux, parce que l'alcool, ça se consomme toujours avec modération. C'est comme les cinémas. Enfin, je sais pas d'ailleurs.
Alors, mon film préféré, il s'agit de Forrest Gump, un film très classique du cinéma, réalisé par Robert Zemeckis, avec dans le premier rôle Tom Hanks, un grand acteur également connu pour beaucoup de films. Et donc Forrest Gump, ça raconte l'histoire d'un jeune Américain qui nous raconte son histoire à travers les années. Donc son expérience de la guerre du Vietnam, mais aussi son idylle pour une jeune fille du nom de Jenny. Donc c'est une belle histoire d'amour autour de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Avec également de très belles musiques. Donc j'aime beaucoup ce film par rapport à l'histoire que ça raconte, le fait que ce soit une histoire d'amour assez dramatique, on va pas se le cacher. Et aussi parce qu'il y a Tom Hanks dans le rôle principal, et Tom Hanks c'est vraiment un acteur très populaire.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Tcha! Graffiti cinéma.
L'ivresse est plus qu'un sentiment, c'est un défi posé à tout ce qu'elle rencontre. Dans la vie, l'ivresse vous pousse à oublier les consonnes et accentuer les voyelles. Oui, vous me voyez venir, un peu comme Mylène Farmer à chacun de ses concerts. Au cinéma, l'ivresse, de la mise en scène à l'écriture en passant par l'interprétation, elle fera vaciller absolument tout sur son chemin. L'ivresse au cinéma, ce sont des scènes cultes, des scènes de cuite parfois, dont aujourd'hui nous évoquerons le rôle et l'image en deux parties dans le cadre magnifique du Campo Santo à Orléans pendant l'Orléans Beer Festival, où nous aurons le plaisir d'enregistrer cette émission en très bonne compagnie évidemment, comme toutes les émissions précédentes. Nous avons autour de la table Stéphane qui est à la technique, Geoffrey qui est avec nous, Juliette, bonjour, Milan avec nous, Loïc qui nous fera sa chronique tout à l'heure, Thomas qui entendra un micro, et l'autre Thomas qui est également autour de la table. Et on va directement pouvoir nous commencer avec un extrait, on va tout de suite se mettre bien avec un extrait très célèbre de l'ivresse au cinéma qui est quasiment incontournable. On remonte en 63.
Ah, faut reconnaître, c'est du brutal.
Vous avez raison, il est curieux, hein.
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
J'ai trop un goût de pomme.
Il y en a.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave?
Ah, si. Il y en a aussi.
On est de retour autour de la table et on parle d'ivresse au cinéma avec cette scène mythique des tontons flingueurs, évidemment. Georges Lautner, pardon, Henri Verneuil, on en parlera tout à l'heure avec un singe en hiver. Georges Lautner, on est en 63. D'ailleurs, 63, c'était une grosse année, hein, parce qu'il y a eu des tontons flingueurs et un singe en hiver. Donc, pour l'ivresse au cinéma, on sent qu'en 63, l'année était plutôt chargée. Un peu comme la langue des personnages qu'on entend, justement, dans cet extrait mythique où on parle de cet alcool qui fait le tour de la table. Alors, les amis, on est autour de ces meilleures scènes d'ivresse du cinéma, les plus belles peut-être, parce que, évidemment, on va parler d'alcool plutôt gay aujourd'hui, puisque cet alcool social dans les années 60, 70, 80 va remonter à ces périodes-là où on n'avait pas forcément le même angle, en tout cas le même regard sur la question de l'alcool au cinéma qu'on évoquera la semaine prochaine dans le film Drunk de Thomas Vinterberg. Mais je voulais commencer directement par ce tour de table assez simple. Finalement, comment on se projette dans l'ivresse au cinéma? Quel rapport vous avez quand vous voyez ces vieilles scènes de ces films des années 60, quand on voit ces scènes-là avec le regard de quelqu'un qui vit en 2022? Alors c'est une question un peu vaste et je je sens que Milan n'aime pas, n'a pas envie que je lui passe la parole là-dessus parce qu'il n'est pas bien, lui qui est né en 2012. Mais Geoffrey, il était un petit peu nostalgique, il avait la petite larme qui tremblait.
Oh, bah oui, non, mais là on est sur du classique, on est sur du culte, oui, ça picole, c'est comme voir des vieilles archives de l'INA sur l'alcool à la campagne, les mecs, bon, oui, c'est convivial. On boit un petit coup, voilà, on se retrouve. C'est ça.
Avec
c'est,
cette
c'est
voix.
Il avait, toujours, il avait cette voix.
Tous les mecs dans les années 60, dans les films, ils parlent comme ça.
Non, mais c'est ça. Il y avait l'accent de campagne. Mais,
c'est vrai qu'il y a quelque chose de terroir, hein, parce que c'est vrai que blague à part.
Mais c'est extrêmement culturel, même dans. Bon, alors, il y a différents films. Dans La Soupe aux Choux, même, ils sont tout contents avec leur pastaga, les mecs. Et c'est ça, on les voit pas comme deux vieux sous l'eau. C'est, enfin si, mais c'est pas méchant. Je veux dire, si, c'est de vieux sous l'eau, mais c'est pas méchant. Ça fait partie, voilà. C'est le terroir. Là, on est vraiment dans des trucs comme ça. C'est le terroir. Et donc voilà. Oui, j'aime bien parce qu'il y avait pas, d'un côté, comme je disais, pas de diabolisation et tout ça. On peut traiter de l'alcool sans diaboliser le truc. Maintenant, sans avoir une espèce de d'être dans un spot de pub de gouvernemental, quoi, dès que ça touche à l'alcool. Donc il y avait, ouais, une légèreté avec ça. Qui va avec l'époque aussi.
Alors c'est vrai parce que là, dans la première partie, donc deux parties ce soir, le rôle de l'ivresse au cinéma, comme je disais en introduction, et l'image de l'ivresse au cinéma dans la deuxième partie après la pause musicale, c'est vrai que là, dans ce rôle-là, on est plutôt, comme tu le disais à l'instant, dans la désinhibition totale. Je ne sais même pas si le mot existe d'ailleurs, et je vous fais ça. Mais on sent un lâcher-prise qui était nécessaire dans les années 60 pour ces générations-là. Et c'est vrai qu'en regardant ma fiche, beaucoup d'extraits que j'ai dans cette première partie datent de cette période-là, dans laquelle on a cette perte de contrôle totale qui est beaucoup moins évidemment connectée aux thématiques sociétales qu'on a aujourd'hui. Alors Milan, est-ce que ça t'a inspiré depuis tout à l'heure, et puis Juliette également autour de la table, Loïc, Thomas, n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez réagir là-dessus. Comment on se projette dans cette ivresse des films des années 60-70, peut-être pour être plus précis au niveau de la question?
Et c'est vrai que le cinéma français, notamment La Soupe aux Choux, c'est très, voilà, l'alcool c'est cool, c'est convivial, on rigole bien, etc. On est un peu bourré. Et moi je pense au cinéma américain où c'est beaucoup plus, à l'époque je trouve, quelque chose de classe et de cool, l'alcool, tu vois. Il y a un truc pour moi, surtout la période avant Reagan et pendant Reagan du cinéma américain, où il y a beaucoup d'alcool qui est cool, l'alcool c'est sympa. Et c'est un truc qui s'est complètement perdu, comme un peu le tabac au final aussi, parce que les héros de l'époque buvaient beaucoup et c'était cool et c'était classe. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit moins, dans le prochain Spider-Man, Tom Holland se mettre une race au sky, enfin c'est différent, quoi.
Le mec dans la même intervention, il arrive à commencer avec La Soupe aux Choux et finir avec Spider-Man.
Et ça, c'est ça. Non, mais vous voyez beaucoup Tom Holland avec un gros verre de vodka là, non,
ouais, ça fait pas.
Alors Juliette, sur cette question là est-ce que je peux te lancer également sur le regard qu'on se projette sur l'ivresse au cinéma dans les vieux films, peut-être pour commencer, parce que c'est vrai qu'on va parler de Drunk de Thomas Vinterberg qui a ce regard très sociétal, très clinique, parce que il évoque forcément, il parle aux gens qui sont de nos générations, donc qui sont nés dans les années 90-2000. Mais c'est vrai que pour ces vieux films-là, on sent que le rapport à l'alcool est totalement désinhibé. On a cette perte de contrôle absolu. On est en 63, je suis même pas sûr qu'il y ait encore des limitations de vitesse qui sont instaurées en France, parce qu'il me semble qu'elle débute en 65. Hein. Loïc, je parle sous son contrôle, et c'est un peu plus tard. Donc on sent qu'on est dans une période des années 60 où cet alcool, finalement, il est indispensable, quoi. L'eau, c'est pour les animaux.
Bah, en France, c'est aussi culturel. Enfin, le terroir, comme il disait Geoffrey, le vin, le bon vin et tout ça. Et puis, bah, le dimanche, c'est le repas en famille où effectivement, on a le grand plat familial, mais aussi sa bonne bouteille. Enfin, ça, c'est bonne bouteille. Et puis, voilà, papy, il faut qu'il se couche après le repas. Donc, voilà, c'est l'ivresse, quoi.
Loïc, justement, on va tendre un micro également.
Oui, c'est aussi l'alcool viril. On voit, la plupart du temps, c'est des hommes qui boivent.
Oui.
Et c'est viril comme le barbecue actuellement. Hein. C'est pareil, c'est la même chose. Hein.
Sauf quand on n'arrive pas à la
le maître.
Alors moi, je vous propose un deuxième extrait, justement, de ce cinéma des années 60 dans le cinéma français. On va continuer notre exploration. J'ai failli faire le lapsus tout à l'heure. Là, on est chez Henri Verneuil. Et on est avec Un singe en hiver qui nous propose aussi une très, très belle scène de cuite.
Allez le galop, le divin chauve.
À la gloire des fusillés marins d'Extrême-Orient.
À Manolette, tu as Linares par le taureau Islero.
Et celui-là, je le bois à mon pote Gédéon, tombé dans le traquenard de Langson.
À Roselito, le plus grand de tous.
Vilain temps, messieurs. Si ça continue, vous allez vous saouler.
Mais quand on est en perme, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu cherches?
Claire, elle devait me prendre à la sortie des arènes.
Mais c'est de ta faute, si tu buvais plus vite, elle serait déjà là. Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Allez, on rentre à la caserne.
Mais laisse, Claire et moi t'avons invité.
T'occupe, la Bleuzard, j'ai touché mon arriéré de solde, alors, hein.
T'as payé avec un billet de train?
Tiens, je te donne l'aller et je garde le retour. Allez, fais-en autant.
Je peux pas.
T'as pas confiance?
J'ai pas de billet.
Ah, bah alors là, t'as tort, faut toujours avoir un billet. Au cas, tu comprends, au cas.
Si tu crois m'apprendre, passer ma vie à faire des allers-retours. Instable, on appelle ça.
Bon, bah allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein, allez, viens.
Alors, un singe en hiver, c'est aussi une première rencontre entre Jean Gabin et, évidemment, on l'a entendu, Paul Belmondo. Mais c'est vrai que, pour le coup, là, on est Jean-Paul Belmondo. Paul Belmondo, c'est le sculpteur. Mais je suis déjà fatigué, moi, je vous fais ça à Jean, en plus. Il y a trop de Belmondo dans cette famille. Alors, Jean-Paul Belmondo, c'est la bleusaille hein, à l'époque. Hein. C'est vrai que, pour nous, c'est difficile de l'imaginer jeune, parce qu'on l'a toujours connu vieux. Et pour le coup, là, il débute et il se confronte à Jean Gabin, qui ressort son accent du terroir, qui était un acteur vraiment magnifique là-dessus. Parce qu'on voit l'accent qui sent la télé.
Il a un amour de ça, lui, c'était impressionnant. Ouais, on connaît tous toutes les interviews à côté, comment ils la mettaient, l'amour de la bouffe, de la boisson, ils étaient bien connus pour ça. Donc il n'y a pas trop de difficultés à jouer, comme dans le tatoué. Bon.
Milan, est-ce que tu avais vu Les Vieux de la Vieille? Moi, je voulais avoir ton regard là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est plusieurs générations autour de la table, tu es le plus jeune d'entre nous, et c'est pour ça que je te lance là-dessus. Quand tu entends ce vieux cinéma-là, est-ce que concrètement ça va te parler ou ça va évoquer des choses chez toi?
Bah moi pour le coup tu vois je me rends compte d'un manque de culture cinématographique que j'ai.
Oui,
qui est assez ouais non bah super bon, sympa. Je te parle de Rodorovski et de Tarkovski là.
On fait une émission en public, je fais ça pour qu'il se fasse insulter par tout le monde. Il va prendre une chaise par la tronche dans pas longtemps.
Je peux parler de Tarkovski pendant 2 heures hein, si tu veux. Moi ça me dérange pas.
Non tu vas prendre plusieurs chaises. Tu vas prendre des tables.
Non mais ouais c'est un gros manque de culture cinématographique. C'est pour ça que quand tu voulais me lancer au tout début j'ai fait non, parce que bah par exemple tu vois les Tontons Flingueurs je l'ai pas vu. Et tous ces vieux films français des années 60, je les ai pas vus en fait, tu vois. Moi j'ai vu les films russes des années 60, mais
ça peut être également une autre question, c'est pour ça que je te lance là-dessus avant que les vieux briscards reviennent. Et c'est vrai que pourquoi pour le coup ça t'as pu passer à côté, et est-ce que ça donne envie de du coup les découvrir ces extraits-là? Parce que là on est dans le Gaulois, on a l'impression qu'on est on est à 2 siècles d'intervalle quoi.
Bah honnêtement pourquoi je suis passé à côté, je sais pas, je m'y suis jamais vraiment intéressé, je crois que j'en ai très peu eu. Moi pour moi le cinéma français de ce que j'ai vu, de ce que je regarde souvent, il commence à la nouvelle vague, tu vois. Il commence à Godard. Moi, j'ai vraiment commencé à le vieux cinéma français. Pour moi, c'est très Godard. Tu
vois. Et encore, on est à quelques années, juste avant la nouvelle vague. Hein, parce que là, les deux extraits qu'on avait, donc Les Tontons Flingueurs et Un singe en hiver, on est en 63.
Ouais.
Donc, on est 3-4 ans après. Quoi, voilà.
Mais du coup, le cinéma de juste avant, ou le cinéma d'en parallèle, qui était moins arty, pompeux, le cinéma classique français, moi, c'est vrai que je l'ai assez peu vu parce que. Parce que c'est pas les films de mes parents, c'est les films peut-être plus de mes grands-parents, et que du coup, je sais pas, je regarde pas de films avec mon grand-père. Non,
c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle entre générations également de ces films-là. Loïc, je te voyais trépigner, parce que c'est vrai que là, on est forcément dans du générationnel et du doudou, quoi.
Mais oui, alors je suis désolé, mais moi, les Tontons Flingueurs, c'est pas non plus ma génération, hein.
Mais ça, il n'y a personne dont c'est la génération.
Non, il y a de moins en moins de monde dont c'est la génération. Par contre, ça reste des films cultes. Mais c'est des films cultes pourquoi? C'est des films cultes parce que c'est les mots d'Audiard. Et puis, c'est une série d'acteurs exceptionnels. Parce que sinon... les Tontons Flingueurs, tu regardes le scénario, c'est plat. Enfin,
oui, il n'y
a pas grand-chose à retirer. Tu mets d'autres acteurs, il y a moyen que ce soit plat aussi. Tu mets un autre scénariste, enfin pas scénariste mais dialoguiste à la place d'Audiard, c'est un film qu'on aura oublié tout de suite. Et c'est cette chimie-là qui fait qu'on peut le voir. Donc je t'invite à aller le voir. Et vraiment, c'est délicieux parce que c'est une belle langue, c'est bien joué, c'est drôle. Et puis, Les Vieux de la Vieille, c'est pareil. Alors, c'est encore un peu plus ancien parce que c'est des vieux...
On va écouter l'extrait juste après, Les Vieux de la Vieille. Mais...
C'est des vieux d'une autre époque, quoi.
Ah oui, là, vraiment, mais, ils sont dans le temps.
C'est d'autres vieux, tu sais.
Voilà, et puis, il y a l'accent. Alors là, pour le coup... On repart sur des choses. Moi, c'est plus que mes grands-parents, quoi.
Ah oui, là,
c'est... Et, Mais il y a toujours cette patte d'Audiard et puis cet humour qui est vif, quoi.
Alors justement, comment définir le rôle de catalyseur de l'alcool dans ces situations dramatiques ? Parce que Loïc l'évoquait justement, c'est vrai que peut-être sans les dialogues et sans ce contexte-là, on a beaucoup de films ici qu'on évoque, Un singe en hiver ou Les tontons flingueurs, qui seraient peut-être passés sous les fourches codines justement de l'histoire et qu'on n'aurait pas forcément retrouvé ou qu'on aurait voulu remettre en avant aujourd'hui. Justement, Geoffrey, là-dessus, moi, toi qui es réal, scénar, qui vois énormément de films et qui a pu travailler sur le montage et la notion de rythme également au cinéma, comment, en quelques mots, hein, parce qu'évidemment on va continuer à travailler le sujet, tu canaliserais le rôle de catalyseur de cet alcool dans les situations dramatiques ?
Déjà par rapport, ça apporte l'alcool. Quand on met l'alcool, on met pas ça par hasard. Soit on met le personnage de l'alcoolique, soit on met la boisson, soit c'est pour la mise en scène, mais on met pas ça. Oh tiens, ça va être fun, il va être alcoolique.
Ça va pas arriver comme ça.
Ça appelle beaucoup beaucoup de choses. Je veux dire, c'est pas anodin. Donc déjà. L'alcool, c'est extrêmement, dans un film, c'est extrêmement finalement narratif avec le cheminement, comme disait Poulvord, les 10 états de l'ivresse.
Voilà.
Il y a un vrai cheminement entre la colère, puis là, il y a la violence, puis après, non, elle trop plein d'amour, tu te tombes dans les bras, tout ça. Rien que ça, c'est très cinématographique.
On rappelle le 10e stade de l'ivresse selon Poulvord, qui est la honte.
Et voilà. Et puis la honte. Voilà. Donc, rien que ça. C'est, on va dire, cinématographique dans la vie. Tout ça, tu peux avoir des scènes de violence, des scènes homériques et tout ça. Donc, ça peut être catalyseur de plein de choses. Et puis, ça peut être catalyseur tout bêtement à accélérer. Parce que, comme on disait, l'alcool, ça peut désinhiber, ça peut machin. Ça peut vraiment accélérer une situation. Et souvent en dramatique. Souvent, dans le cinéma, c'est traité en dramatique. Parce que c'est le mec à un point, par exemple, il se met à boire parce qu'il a plus que ça et tout ça. Donc,
oui.
c'est plus l'alcool refuge en général que l'alcool joyeux. Mais après ça peut, sinon on a tendance à voir dans tout ce qui est par exemple Un incriminé botanique ou des trucs comme ça, des scènes de fête et tout, où là t'es vraiment dans la mise en scène de l'alcool, c'est la fête, tout ça, tout est permis dans la mise en scène.
Alors là, vous me voyez venir avec mes gros sabots et une question un peu border également, mais est-ce que justement un mauvais film peut devenir bon avec une scène d'ivresse ? Alors on ne parle évidemment pas des tontons flingueurs et d'un singe en hiver qui font partie du patrimoine cinématographique français, mais c'est vrai qu'on va évoquer d'autres films, et j'en ai choisi un volontairement qui était très léger tout à l'heure à la fin de la première partie dont on écoutera la bande-annonce. Est-ce que l'alcool peut sauver un scénario, peut sauver une situation, peut sauver un arc
sur
ou
une
choix
scène en plus sur, une séquence sauve pas un film.
Milan, là-dessus.
On avait fait une émission sur la drogue au cinéma et
on a fait ça.
Ouais, je n'avais pas fait ça. Si, on a fait ça. Hein.
On a dû parler de la drogue, mais on n'a pas fait que la drogue.
Ouais, non, mais on en a parlé.
C'était chez quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais...
non, mais on avait parlé de ça dans une autre émission avant. Et en fait, il y a un truc qui se rejoint un peu. Parce que je disais que ce qui est bien avec la drogue au cinéma, c'est que, en fait, ça permet une liberté totale. Tu vois, ouais. On le voit dans Las Vegas Parano, ça permet d'aller très loin dans des fantasmes, dans des images. Et l'alcool permet d'aller très loin aussi. On peut justifier des comportements de certains personnages, filmer du n'importe quoi en fait, avec l'alcool. Donc ça peut, scénaristiquement parlant, créer une liberté dans l'image.
Parce que c'est vrai, là, Loïc, tu connais, tu as même travaillé avec des élèves, la scène des tontons flingueurs de mémoire, je crois. Hein.
Pas du tout.
Voilà, mais pour les besoins de l'émission, tu vas la travailler avec des élèves.
Non, c'est
pour les besoins de l'émission.
Non, ce que j'avais travaillé avec les élèves, voilà. C'était
Kaamelott,
les tartes aux myrtilles.
Ça sera pour une autre émission, ouais. Celle-ci. Est-ce qu'on peut être sous avec une tarte aux myrtilles ? Peut-on être Yves de tarte aux myrtilles ? Ça, c'est un autre débat, évidemment. Alors, blague à part, Loïc, pour parler de ça, est-ce que, par exemple, pour parler de cette scène culte des tontons flingueurs qu'on a écouté tout à l'heure, sans l'argument de l'alcool, elle fonctionne quand même ? Voilà, c'est ça aussi cette question-là par rapport à ça. Milan, on va lui tendre le micro à Loïc et puis réagir là-dessus juste avant un nouvel extrait.
Alors, sans l'alcool, il y a plein de choses. Il n'y a pas que l'alcool dans les tontons flingueurs, en fait.
Bien sûr,
l'alcool, il est intéressant par rapport à cette scène de la cuisine, cette fameuse scène de la cuisine. Mais le film ne tient pas que par rapport à cette scène. Donc, non, le film, il tient sans l'alcool. Ils auraient... Alors, sans l'alcool, par contre, cette scène-là n'existe plus. Oui, c'est sûr.
Oui.
C'est sûr. On met du jus de grenadine à la place et puis c'est mort. Quoi.
Et puis voilà, ils s'emmerdent dans la cuisine alors que les jeunes sont en train de faire la fête.
C'est
quoi,
ça.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue avec un nouvel extrait des années 60. On va remonter de 3 ans. On va écouter un extrait des Vieux de la Vieille de Gilles Grangier.
Hey, Tiens les gars, ben le voilà le mitonon. Tiens la table. Louise, donne-nous une bouteille de cachet. Et allume dans les loupiottes pendant que tu y es.
Salut Baptiste. Et il nous reconnaît pas.
Ah Léon.
Oui, bonjour.
Bouillon.
Le fils.
Le fils Bleuzé.
Alors comme ça, vous voulez retraiter. Pour venir au pays.
Ben... oui et non.
Ben on est tous bien contents de te revoir.
Notre vie, c'est combien, il n'y a pas trop à nous péter. L'âge de l'athlète, tu l'as?
C'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité.
Ah mais, justement, t'es-tu encore ce que t'étais? Ah.
14 de tension, quand on m'emmerde pas. Des réflexes de conscrit. Et un ciboulot comme neuf. Enfin, Jean-Marie, toi qui es impartial.
Oh. Ouais, quoi,
est-ce qu'on se prive d'un homme qui a parcouru pendant 35 ans la ligne Pithiviers étant Pithiviers? Pithiviers étant Pithiviers tous les jours. Vous savez ce que ça fait?
Les voyages, on a beau dire, hein. Y a rien de tel pour voir du pays.
Ben, je pense bien. C'est pas les curiosités qui manquent.
À moi et ma femme, on en cause souvent. Ce qu'on aurait aimé connaître, nous autres, c'est le temple d'Angkor. C'est rare, ça, le temple d'Angkor.
Bon, c'est bien que c'est rare. Surtout entre temple et Pithiviers, je voudrais pas faire de peine à personne, Étienne. Mais plus con que toi, c'est rare aussi.
Hey. Ils sont vraiment plaisants, hein.
Moi, je leur cause plus depuis 4 ans. M'aurait fait tomber fou.
Alors les vieux de la vieille, c'est génial parce qu'en plus ça se passe pas loin de chez nous, hein. On parle même du chef de gare de Pithiviers dans cet extrait, donc c'est arrivé près de chez vous et pour le coup on est dans ce terroir qu'on évoquait, c'est pour ça que j'ai volontairement choisi des extraits dans les années 60, mais après on en parlera d'un autre film, un autre téléfilm que tu nous avais cité Geoffrey dans les années 90 qui était très intéressant également. Alors les vieux de la vieille, justement c'est ce qu'on évoquait, c'est pas anodin que vous ayez parlé de la soupe aux choux, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, parce que la soupe aux choux, évidemment on n'est pas dans le même niveau du patrimoine cinématographique. La soupe aux choux, c'est un film qui joue à se rappeler de ces films-là qu'on évoque avec les vieux de la vieille, dans lequel le passy s'appelle le perniflard. Et on voit là des petits vieux qui s'ennuient concrètement et qui picolent. Donc ils picolent. C'est-à-dire, en gros, voilà, c'était socialement accepté quand on s'ennuyait de tout le temps picoler entre copains, sans qu'on ait les thématiques évidemment qu'on va avoir à partir des années 2000. C'est vrai que là, les vieux de la vieille, c'est la même chose. Hein. On voit des vieux entre eux, c'est devenu une expression commune, hein, quasiment, les vieux de la vieille, où on voit les vieux faire les 400 coups avant la nouvelle vague, ce qui est très rigolo, justement. C'est pour ça que le film est très intéressant et qu'on le conseille évidemment à toutes les générations et à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que ici, on retrouve non seulement le terroir, mais également des pratiques sociales complètement reculées. Pas disparu.
Valeurs documentaires maintenant, ce genre de film d'à côté.
Alors, comment on parlait justement de ce phrasé-là? Parce qu'on retrouve également le vieux français qui est associé justement à toute cette scène-là qui est connue dans les vieux de la vieille. Loïc, tu nous disais même que tu avais envisagé, comme tu aimes bien le cinéma des années 60 et que tu finis de te battre avec ta mousse, parce qu'on boit des bières en même temps, hein, parce qu'on on est quand même à un festival de bière, donc on boit de la bière. Et là, on, au moment où on tend le micro à Loïc, il est en train de se battre avec de la mousse. C'est assez impressionnant. On mettra ça sur la page Facebook de l'émission. Et tu nous disais que les vieux de la vieille, c'était justement un phrasé. Et c'était un français qui était très compliqué aujourd'hui de retransmettre.
C'est du vieux François.
Pour le coup, les enfants ont plus aucune référence de ça. Ni dans l'accent, ni dans le vocabulaire, ni dans les situations, ni dans la vie. Dans les vieux de la vieille, ils ont des tas de références de la vie quotidienne de cette époque-là qui n'existent plus.
Oui.
Et donc, les enfants, ils regardent ça, mais... Ils sont dans un autre monde, quoi. Ils sont plus proches de des films Marvel que de ça, quoi.
C'est vrai qu'entendre Pierre Frenet, qui en plus a une variété de rôles assez importante, voilà, ouais. Où il a joué parfois le jeune premier, le notable, et là, le voir jouer quelqu'un qui est complètement habitué à 60 berges, c'est assez rigolo de voir ça et de voir également cette palette de comédie qu'il a pu avoir tout au long de cette période très importante. Alors, c'est vrai que l'ivresse, telle qu'on la parle dans les plus belles scènes d'ivresse, elle doit forcément être gay. En tout cas, c'est un débat. Et je vous propose justement un nouvel extrait de peut-être un film qui est devenu iconique de l'alcool gay en France, qui est La Belle Équipe de Julien Duvivier en 36.
Des travailleurs, vous tous, avec vos parents, vos amis et connaissances, on vous attend le jour de Pâques. Le jour de Pâques, c'est l'ouverture. On fera des crêpes, il y aura du boudin. On s'invite, en avant la musique.
C'est pas vrai, c'est pas vrai, il ouvre les micros trop tôt. On était en train de boire. Alors, on vous écoutait Graffiti Cinéma, on est au Campus Santo Orléans, on enregistre pendant l'Orléans Bière Festival. On boit des bières, évidemment, on parle d'ivresse au cinéma. Et évidemment, on parle de ces vieux films qui n'ont pas du tout le même regard sur l'alcoolisme, on l'a dit, et puis on en parlera encore plus la semaine prochaine avec Drunk de Thomas Vinterberg. Et là, on entendait l'extrait de La Belle Équipe de Julien Duvivier en 36. Et je disais avant le lancement, c'est peut-être devenu iconique de ce qu'est l'alcool gay, l'alcool festif. Alors évidemment, c'est pas du tout scientifique, c'est une définition qu'on a tous de manière empirique, mais ça m'amène à cette question finalement qui est assez simple. Est-ce que au cinéma, pour vous, au départ, en tout cas dans ces années-là, c'est évidemment l'alcool tendre. Il existait déjà des films qui parlaient d'alcoolisme et qui parlaient de déchéance liée à l'alcool, mais ce film collectif qui est La Belle Équipe et qui, on sait, a eu des soucis de fin, parce qu'au départ, on le sort en 36 avec une fin positive, alors que les scénaristes avaient prévu une fin plus tragique, qui est maintenant dans le montage final que vous trouvez en DVD avec la version restaurée des équipes pâtées. Mais on sait que La Belle Équipe était devenue le film du Front Populaire dans lequel c'était agréable de boire entre copains. Et pas seulement entre hommes, hein, également. La Belle Équipe, c'était vraiment tout le prisme de la société française qui se retrouvait au bord d'un marais pour picoler. Alors, est-ce que vous pensiez de ça, justement, de ce film-là, de cette version tendre de l'alcool festif? Je sais pas qui je peux lancer là-dessus, pas trop fort, visiblement, puisqu'ils sont tous en train de s'attaquer sur leur bouteille. Geoffrey,
c'est à l'époque, c'est le côté convivial indéniable. C'est un peu comme la culture pop qu'il peut y avoir en Angleterre et tout ça.
Non, on a un tremblement de terre pendant l'émission, mais c'est, on va continuer.
C'est rien.
C'est où, alors, c'est Godzilla qui s'est perdu, je ne sais pas.
Mais du coup, oui, il y a le côté convivial indéniable et tout ça. Et dans ces années-là, du moins, c'est vrai qu'en France, on faisait beaucoup plus, quand on traitait le sujet, des films où c'est convivial, c'est machin, c'est congé payé, c'est le déjeuner des canotiers, tout ça, quoi. Et déjà aux États-Unis, ils faisaient des films beaucoup plus graves là-dessus, oui, sur des personnages justement qui perdaient tout. T'as le poison, t'as.
On peut citer Lobo Brador, justement avec Frank Sinatra, donc de mémoire, je retrouve le réal. Bon, bah évidemment, on le cherchera pendant l'émission, mais je l'enlèverai au montage, donc ça me permet de dire Prout.
Voilà.
Un moment, parce que je sais que je l'enlèverai au montage, donc il n'y a pas de débat là-dessus.
Et tout comme aux États-Unis, bah, en France, on a le vrai côté historique et culturel par rapport à l'alcool. Et aux États-Unis, ils ont un tout autre côté historique. Ils ont eu la prohibition, ils ont eu les moonshiners. Enfin, il y a eu plein de trucs autour de ça. Donc, c'est pas la même. Parce qu'à partir du moment où on parle d'alcool, on parle d'une relation à la société, on parle de la société, forcément, à un moment.
Ça va être ma question suivante. C'est vrai que c'est très intéressant ce rapport sociétal qui est important. Parce que là, on voit que la société du Front Populaire en 36, c'est un lâcher-prise total. Et on le voit dans La Belle Équipe. On les voit, les gens qui boivent, ils ont tous un verre à la main. Et il n'y a absolument pas de jugement tel qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui, où on doit forcément venir avec, c'est normal, cette précaution morale de dire, attendez, l'alcool, on le boit avec modération, comme on le fait là autour de la table en parlant d'ivresse au cinéma. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu une figure imposée dans notre cinéma aujourd'hui, mais qui a un lâcher prise absolu dans, en tout cas, les premières scènes de La Belle Équipe de Julien Duvivier, qui, on vous le dit sans spoiler, mais en même temps, le film est sorti en 36, donc vous pourriez vous manier un petit peu pour le voir. On peut le dire également que La Belle Équipe compte évidemment un lot de scènes dramatiques qui sont liées justement à l'ivresse, puisque là, l'extrait que j'avais choisi justement, c'est quand même quelqu'un qui tombe d'un toit. Bon, parce qu'il est un petit peu sous, et même en étant à Jeun, c'est pas forcément conseillé de monter sur un toit. Et c'est un peu la morale de La Belle Équipe, finalement. En tout cas, une des morales de ce film culte, en tout cas. Milan, justement, sur ce rapport, je dirais, sociétal et quasiment sociologique. Là, on fait quasiment de la sociologie du cinéma. Qu'est-ce que ça t'évoque, justement?
Eh bien, c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution en prenant ces films-là. C'est cette époque où l'alcool, en fait, dans ces films et dans la société, c'est un peu vive l'alcool. C'est super, c'est festif, il y a ce côté très festif. Alors qu'aujourd'hui, l'alcool, il est soit très mondain dans des films très bourgeois, soit il est dramatique dans des drames français, dans le cinéma français, je parle du cinéma français. Et il n'a plus du tout cette valeur festive dans le cinéma français. Et en fait, je trouve que par certains réalisateurs, comme par exemple Igor Gottesman, il a été remplacé par la drogue. Oui. Ce qui est devenu festif aujourd'hui, et même sociologiquement, et dans les films, c'est la weed, c'est fumer de la beuh. Et du coup, on le retrouve beaucoup dans les films d'Igor Gottesman, par exemple dans Five ou dans Family Business, ce genre de choses. Et voilà, quand on cherche quelque chose qui est montré de façon positive alors que ça a clairement des effets négatifs, c'est plus l'alcool aujourd'hui dans le cinéma français, ça a clairement été remplacé par la drogue.
Un extrait d'un film qui parle d'alcool mais totalement hors sol, on va aller très très loin, on va faire un écart sociologique, mental et en termes d'années violent, puisqu'on passe de La Belle Équipe à Projet X.
Maman, papa, c'est moi, Thomas. Par où commencer? C'était censé être qu'une petite soirée entre potes, je vous l'assurais, pour un soir, vous voyez, je voulais que les filles me remarquent. Puis tout ça, c'est un peu parti en vrille.
Ce soir, on peut se faire les filles dont on n'ose même pas rêver. Ce soir, on va changer les règles.
Alors, il nous reste 2-3 minutes dans cette première partie, mais c'est vrai que j'avais une dernière question qui m'évoquait justement ce rapport à la société des années 60 ou des années 30. On évoquait La Belle Équipe, des classiques comme Les Vieux de la Vieille. Projet X, c'est justement un film intéressant, puisqu'il montre cette grande fête cliché américaine avec les gobelets rouges. Vous avez remarqué, dans toutes les fêtes américaines d'étudiants, ils ont des gobelets rouges. Pourquoi ? Je les ai cherchés partout au supermarché pour faire des fêtes pareilles. On en trouve.
Oui, je confirme. Hein,
voilà. Mais c'était juste pour ça qu'on mettait l'extrait, voilà. En fait.
Donc, c'est une minute pas intéressante sur les gobelets rouges.
Alors, Projet X parle évidemment de jeunes lycéens qui, pour devenir les vedettes du lycée, décident d'organiser une fête complètement improbable dans la maison des parents qui sont logiquement partis en week-end. Et ça finit, on le voit même dans la bande-annonce, avec une voiture qui finit dans la piscine. Ça part avec l'effet amplificateur des réseaux sociaux, où cette fête-là, finalement, qui était quelque chose d'assez classique, qui aurait pu faire un petit film à la journée de Ferris Bueller très très classique dans les années 80, avec l'amplification des réseaux sociaux, bah vous avez à peu près la moitié des célébrités de la ville qui se pointent à cette fête, qui fait un buzz absolument incroyable et qui devient une fête liée à l'alcool, liée à l'ivresse évidemment, mais totalement, à la différence des films qu'on évoquait tout à l'heure, hors sol. C'est-à-dire on n'a pas de jugement évidemment sur l'alcool, mais surtout on a l'impression que cette fête existe pour elle-même et elle ne prend pas conscience des dégâts qu'elle crée au sein des personnages, mais également dans le voisinage. Il y a même des jardins qui viennent sans feu, ce film est totalement dingue.
Il y a quelque chose qui est intéressant avec ce film et qui en fait complète complètement ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'alcool est montré comme étant normal. À aucun moment tu te dis c'est pas normal qu'il y ait autant d'alcool ou quoi. Enfin, c'est pas forcément le point du film. Le point du film, c'est quand il trouve de l'ecstasy en éclatant un nain de jardin. C'est vraiment.
En éclatant un nain de jardin.
Non, mais
la phrase est géniale.
Il trouve un nain de jardin, il l'éclate et il y a de l'ecstasy dedans. Et c'est le point du film. Enfin, c'est vraiment à partir de ce moment-là où ça commence à partir en vrille.
Ça bascule beaucoup.
Ça bascule beaucoup à ce moment-là. Et en fait, le film paraît pas tellement choquant quand il boit juste de l'alcool, il devient quand il trouve de l'extra. Et donc je trouve vraiment que aujourd'hui dans le cinéma, le rôle de l'alcool a complètement été remplacé par le rôle des drogues, des autres drogues.
Oui, c'est vrai. Ouais. Comme même niveau, bah, forcément il y a tout Requiem for a Dream et tout ça, mais oui. Même des films du coup comme Las Vegas Parano, marrant parce que finalement t'as pas vraiment de souvenir de scènes fofolles avec l'alcool parce que t'as déjà tout le reste des drogues, donc il y a déjà plein de façons de filmer, de mettre en scène complètement fofolles, donc c'est pas du tout, en effet c'est un moindre mal l'alcool. Et puis même quand il essaie de boire, il est dans le désert, ah bah merde, ma bière elle a pris plein. Et même s'il veut essayer de boire, il y arrive pas finalement.
Donc, oui, c'est assez paradoxal finalement dans celui-là, ouais. qui est vraiment, alors on s'est concentré évidemment, vous l'avez compris, sur l'ivresse alcoolique, voilà. Mais c'est vrai que Las Vegas Parano est très intéressant là-dessus parce qu'il cumule toutes les ivresses possibles, voilà. Imaginables à l'époque.
On peut aussi penser à Euphoria, tu vois, c'est une excellente série que je reconseille constamment parce que c'est magnifique comme série Euphoria. Il y a la même chose, à chaque fois qu'il y a une soirée, une grande fête, on n'est absolument pas choqué et c'est absolument pas filmé avec des inserts, le fait qu'il y ait beaucoup de bouteilles d'alcool, etc. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il y a de la MD, c'est qu'il y a de la coke, c'est qu'il y a tout ça en fait.
Et c'était justement important en tout cas d'en parler dans cette première partie sur le rôle de l'ivresse au cinéma, le rôle de catalyseur dramatique. Et avec Projet X, en gros, moi, ma question c'était, est-ce que l'ivresse doit être connectée à la société, évidemment dans l'espace diégétique du film, dans le film, ou est-ce qu'elle doit être absolument hors sol, tout simplement, où on ne doit jamais se poser ce genre de questions, en tout cas qui viennent à l'esprit du spectateur. Dans la deuxième partie, on va parler de l'image de l'ivresse au cinéma, on parlera de mise en scène, on parlera de direction d'acteur. Et là, on va commencer avec la première pause musicale, Lerita Mitsuko, Nuit d'ivresse. C'est mieux, hein? C'est mieux.
Oh,
Alors, de retour à l'Orléans Bière Festival. Alors, on est dans notre émission spéciale sur l'ivresse au cinéma. On s'entend bien. Tout le monde boit une petite bière. Et Romaric est parti faire pipi. Il court sur la pelouse. C'est formidable. C'est un être incroyable. Il revient. Il l'embrasse. Sa blonde brune. Alors qu'il boit une blanche. Alors, Romaric, on t'écoute. On t'aime beaucoup.
Alors en fait c'est la deuxième partie, je sais pas si vous l'avez commencé sur l'image de l'ivresse au cinéma. Dans la première partie on a parlé du rôle de l'ivresse au cinéma. Là on va plutôt se concentrer sur l'utilisation iconique de l'ivresse et les écoles pour mettre en scène l'ivresse. Et je vous propose un premier extrait, on va aller au Japon.
Alors, un court extrait du goût du saké de Kashimiro Ozu. J'arrive pas à prononcer le prénom. Je suis désolé. Je suis sûr que c'est Kashimiro, mais j'arrive pas à le prononcer en japonais. Et le goût du saké, c'est intéressant parce qu'on est allé chercher loin, évidemment. Et comme tous nos auditeurs, vous parlez parfaitement le japonais, donc vous compreniez et vous avez reconnu le goût du saké avec l'extrait, évidemment. Enfin, je dirais pas trop de débat non plus. Ce film-là est intéressant parce qu'il nous permet également de voir, d'un point de vue international, la façon de mettre en scène l'ivresse. Et c'est vrai que Geoffrey, quand on parlait avec Juliette, on a fait nos listes. Vous savez, on aime bien faire des listes de films quand on monte une émission ou un thème d'émission. Et assez rapidement, le goût du saké, il est rentré dans cette liste-là. Et Geoffrey, est-ce que tu voulais nous en parler, nous en donner quelques mots? Parce que là, on va voir l'image très traditionnelle du Japon, je dirais un peu à la Miyazaki, qui est très cliché. Mais on va parler évidemment de cette ivresse et de ses rapports déjà à l'alcool également.
Alors, par rapport au goût du saké en lui-même, c'est pas le film que je connais le mieux par rapport à ça.
C'est pas grave, tu te débrouilles, tu fais le spécialiste.
Tu te démerdes, tu fais le spécialiste. Mais
on peut en évoquer d'autres, parce qu'on sait que Ozu a fait énormément de films. Hein. Il y a eu le goût du saké, le goût du thé vert, le goût du Coca-Cola. Il a fait le goût de plein de trucs.
Le goût de plein de choses. Quoi.
Et en plus, alors, les deux premiers sont vrais. Hein.
C'est pas pour déconner.
Après, bon, il a un peu parti en cacahuète, mais on sait qu'il a énormément évoqué ça. C'est ce rapport très sociétal qu'on évoquait tout à l'heure. Vous avez la société très traditionnelle du Japon qui est confrontée justement à cette ivresse-là.
Après, en plus, culturellement, c'est encore autre chose. Justement, au Japon, ils peuvent en arriver justement pour être désinhibés. Ils font exprès justement de boire une certaine quantité pour être désinhibés, pour même dans les affaires, des choses comme ça. Donc, c'est assez compliqué parce qu'il y a toujours aussi, je pense, une retenue dans cette société. Donc, l'alcool, c'est les mecs, s'ils dosent pas, justement, on n'est plus dans cette retenue. Donc, ça peut donner des choses intéressantes, aussi bien en tant que critique qu'en tant que mise en scène, forcément.
Donc. T'es content d'avoir mis le goût du saké dans ta filmo pour que tu t'interroges dessus?
Ouais, non, mais nickel. C'est le film que je connais pas, c'est pas celui que je connais le mieux, mais bon, encore, voilà.
Non, en tout cas, on voulait avoir cet angle-là avec d'autres cinémas, parce que moi, ma première question dans cette deuxième partie sur l'image de l'ivresse au cinéma, c'est quelles sont les écoles que vous reconnaissez, que vous pourriez classer pour mettre en scène l'ivresse au cinéma? On a parlé dans la première partie justement de ce côté très désinhibé des années 60 en France, où on n'a pas forcément de jugement moral et c'est normal de montrer des gens sous, c'est même limite anormal de voir des gens pas sous, à l'image de ce que faisait La Soupe aux Choux de manière très triviale. Et c'est pour ça qu'il est devenu culte alors que c'est pas forcément un très bon film. On a également le regard clinique qu'on va avoir avec Vinterberg et Thomas Vinterberg la semaine prochaine avec Drunk. Est-ce que vous voyez d'autres façons de mettre en scène l'ivresse qui vous ont marqué au cinéma, d'autres mises en scène, Milan?
Il y a l'ivresse par l'horreur dans le cinéma d'horreur. On va pas être très original, hein, on fait une émission de cinéma sur l'ivresse et on va parler de Shining, mais
on est original.
On est pas très original.
C'est un très bon verbe en ING.
et ouais, donc par l'horreur, par Shining, par la terreur d'un homme sous. Qu'est-ce qu'un homme sous dans sa folie et dans son ivresse est capable de faire? Il y a beaucoup ça dans Shining parce que le personnage se met des cuites assez régulièrement et il y a un côté terrifiant avec ça, montrer l'alcool de façon terrifiante parce que de façon imprévisible, c'est-à-dire que la personne alcoolisée est un être imprévisible qui peut commettre des choses assez terrible comme on le voit dans le film.
Oui, il devient quasiment schizophrène, hein, pour le coup.
Justement,
Geoffrey,
avec la parano, tout ça, justement, c'est un super catalyseur par rapport à ça, par rapport à l'isolation, tout ça. Donc, ça marche très très bien. Et en effet, c'est une façon super intéressante, l'horreur là-dedans. Donc, parce qu'après, il y a pas vraiment de règles. Il y a pas vraiment de règles. C'est comme dans le cinéma, il y a pas de règles finalement. Enfin, oui. Pour plein de choses. Mais il y a finalement deux grandes façons. Soit on le fait en profil mix, c'est-à-dire c'est le personnage qui est bourré qui joue le bourré. Toi, tu fais ta mise en scène à peu près normale, disons. Soit vraiment c'est sur la mise en scène avec des cadres débulés, avec un gros montage, des trucs comme ça. On va dire que c'est les deux grandes façons de filmer. Mais celle que tu choisis, ça dépend ce que tu veux dire. Forcément, oui. Comme je dis, si t'es dans Lockstock, Arnaque, Crime et Botanique, t'es sur une séquence de fête, bah, Guy Ritchie va s'éclater, il va faire ça vachement punch et tout, parce que c'est quasiment anecdotique niveau séquence. Mais si il y a quelque chose de plus grave, en effet, tu vas choisir d'autres.
On va donner la parole à Juliette sur ce thème-là, mais c'est vrai que parce que tu évoques, on peut parler d'image de la boisson et citer un plan très célèbre de l'histoire du cinéma, qui est celui de Citizen Kane, où on voit à un moment donné justement ce Kane qui est dans le lit avec une bouteille au premier plan. Un premier plan net et un arrière-plan net avec une porte qui s'ouvre et la bouteille en très gros plan en longue focale qui suggère très fortement
foyer, enfin, voilà, vachement,
qui suggère très fortement l'époque. L'alcoolisme du personnage. Et avec cette miracle technique de l'époque, vous avez un premier plan net, un arrière-plan net, n'essayez pas de faire ça avec vos photos, ce n'est pas possible. C'était un trucage qui avait été fait évidemment à l'époque pour que ça puisse fonctionner. Et c'est vrai que cette image là elle caractérise, il y a des parfois elle économise des pages de scénario.
C'est très très symbolique, comme on disait. On met pas un buveur, on met pas une boisson par hasard. C'est une critique de la société. Ça peut être pas qu'un accessoire, pareil, mais ça peut vouloir dire selon la boisson qu'il prend. Ça peut être un rang social.
Oui,
ça peut
être par exemple dans Django Unchained, le docteur Schultz, il boit une bière, alors que le personnage de Leonardo DiCaprio, dont j'ai oublié le nom, lui, il va boire un cocktail.
Des petits vins cuits, des petits vins parfumés, tout ça. 120
ingrédients pour préparer le cocktail, pour montrer la différence entre
les deux. Ça dit énormément le raffinement, tout simplement la simplicité de l'autre qui se la pète pas aussi. Et puis il est allemand, après. Mais.
Deutsche Qualität.
Voilà, exactement, efficacité.
Mais... Alors, moi, également, on va parler d'ivresse et de cinéma anglais à la suite, évidemment, parce que c'est important, le cinéma anglais. Il y a longtemps eu plusieurs façons également de traiter ce sujet-là, évidemment, de Ken Loach à la trilogie Cornetto, en passant par Alan Clarke. On peut dire qu'il existe, en tout cas, différentes façons de traiter celui-ci. On pourrait dire que de Ken Loach, on va beaucoup traiter la déchéance sociale dans un premier temps, mais il y a également le film très important qui est La Part des Anges, ici qu'on doit évoquer quand on évoque Ken Loach, qui va montrer justement, comme le disait Juliette à l'instant, un raffinement de l'alcool, où on voit qu'il y a différents degrés de niveau. On l'a traité évidemment avec la bière au cinéma, on parlait de ce côté très populaire de la bière, et là dans La Part des Anges c'est du scotch de mémoire, du whisky, et on voit que le whisky est celui des CSP+, quoi. C'est vraiment l'alcool comme justement
c'est là-dessus qu'il faut faire son connaisseur, c'est là-dessus, si tu t'y connais pas t'es un peu une brêle, quoi.
Alors que quand Kenlo tu vas utiliser la bière, un alcool plus populaire, ça va être des vraies déchéances au pub, on va complètement perdre son emploi, perdre sa famille, et c'est la bière va justement symboliser cet alcool là. Kenlo également, on passe à la trilogie Cornetto, on a le côté complètement festif, complètement dingue du rapport à la bière, et là je vais lancer évidemment, parce que on est dans des films beaucoup plus récents, je vais lancer Milan là-dessus, parce que la trilogie Cornetto, donc on est justement chez Edgar Wright, et on va avoir cette série film qui finit avec le dernier pub avant la fin du monde, donc The World's End en version originale, où vous avez des gars qui décident tout simplement de se biturer et de faire tous les pubs qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes jusqu'à la fin du quartier qu'ils ont connu, la voie fameuse voie maltée. Moi je vous propose, c'est un extrait juste avant que Milan tu interviennes, un extrait du dernier pub avant la fin du monde, et évidemment on se retrouve juste après au Campo Santo pour parler d'ivresse au cinéma.
Avez-vous prévu quelque chose pour le dîner ?
Ce soir, nous prendrons part à un festin exclusivement liquide en remontant vaillamment la voie maltée. Commençant par une tournée inaugurale à la vieille poste, nous enchaînerons le vieil habitué, le chant du coq, les mains croisées, les bons compagnons, le fidèle serviteur, le chien à deux têtes, la sirène, la ruche, la tête du roi et le trou dans le mur, où nous prendrons la même chose pour finir sur une pinte douce amère. Dans le plus fatal des terminus, la fin du monde. Laissez le couloir éclairé, gente dame, car si nous rentrons, le regard étincelant, nous serons aveuglés par un brouillard éthylique.
On est de retour au Campo Santo, c'est un extrait du dernier pub avant la fin du monde. Alors, on va en parler, Milan, et c'est vrai qu'on va parler d'autres références dans cette deuxième partie, juste avant le quiz de fin et la chronique de Loïc. Et c'est vrai qu'on parcourt cette notion de l'ivresse qui est assez vague, hein, qui est un peu une forme de mot-valise dans notre émission, mais on la recontextualise en tout cas tout le temps, justement par rapport au sujet. Dans la première partie, on voyait que c'était hors sol, c'était pas connecté, parce que c'était une société où il était quasiment un état naturel d'avoir l'alcool game. Mais on n'oublie pas également que l'ivresse, comme on en parlera la semaine prochaine avec Drunk, c'est très proche de l'alcoolisme, et c'est justement tout l'intérêt de ces films-là, de parler de films du passé pour évoquer cette situation-là. Alors la trilogie Cornetto, elle est quand même un petit peu, je dirais, border sur le sujet, parce qu'elle a un rapport qui n'est pas du tout moral à l'alcool, qui est vraiment le côté très gamin.
Bah, là, je vais surtout parler du dernier pub avant la fin du monde, bien parce sûr, que ouais. C'est le film sur l'alcool, mais l'alcool, c'est une des caractéristiques de la trilogie des Cornetto. On la retrouve partout, et le pub, on le retrouve partout. Dans Shaun of the Dead, on a ce pub où se termine cette scène de fin qui est absolument magnifique. Dans Hot Fuzz, on a aussi
le pub,
ce pub. Et dans le dernier pub avant la fin du monde, on a que des pubs. Et en fait, ce qui est intéressant chez Edgar Wright et dans la trilogie des Cornetto, alors pour ceux qui ne connaissent pas la trilogie des Cornetto, du coup c'est trois films, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde, trois films qui ne sont pas liés mais avec le même réalisateur et les mêmes acteurs, et où on retrouve des thèmes récurrents, notamment un cornetto pour chaque film, un rouge pour Shaun of the Dead pour
à
les zombies,
la fraise.
Voilà, un bleu pour Hot Fuzz par rapport à la police, et un vert pour
la science-fiction,
pour le dernier pub avant la fin du monde, pour la science-fiction effectivement. Et les personnages se définissent vraiment beaucoup, il y a vraiment un accent sur ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent, et ça on le retrouve aussi dans Hot Fuzz, où le policier qui au début est un personnage, le personnage principal, qui est très carré, très droit, il prend il me semble un sirop à la myrtille ou quelque chose comme ça, là où tout le monde tourne à la bière, et dans dernier pub avant la fin du monde, tout le monde tourne à la bière quoi qu'il arrive.
Il y en a un qui commence à l'eau.
Il y en a un qui commence à l'eau. Du coup, le dernier pub avant la fin du monde, c'est l'histoire d'un mec qui retrouve ses potes d'enfance et qui veut faire un marathon qu'ils n'ont jamais réussi à faire pour se retrouver, sachant que c'est le seul à être resté assez enfantin, très ado, très on va se murger et c'est sympa. Où les autres sont très casés, très droits.
Oui, ils ont des métiers, c'est voilà. Notable, ils sont installés.
Et ils vont petit à petit finir un peu bourrés tous. Il va se passer beaucoup de choses et on découvre des choses assez cynique sur leur vie d'enfance. Et du coup, c'est un film assez magnifique qui est plein de détails. C'est ce que j'adore chez Edgar Wright, c'est qu'il met du détail partout et tout caractérise ses personnages. Il caractérise vraiment beaucoup ses personnages par ce qu'ils boivent, par ce qu'ils mangent, par comment ils sont assis, par énormément de choses. C'est énormément de détails et c'est un film assez fabuleux.
Alors, parler d'alcoolisme et de personnages de l'alcoolique, ça nous amène à une nouvelle transition assez improbable. On est passé tout à l'heure de la soupe aux choux à Marvel. Là, on va passer de la trilogie Cornetto à Dumbo.
Voilà.
Et c'est pas facile. Geoffrey, on n'est pas bien.
Non,
là.
Non, c'est pas facile.
On remonte en 41 hein, de mémoire.
Tout, voilà, oui, c'est ce que disait Thomas.
Thomas qui nous a filé le titre. Et parler de Dumbo, Auditi et de rapport à l'alcoolisme, ça peut surprendre. Moi, je m'en rappelais pas, pour être franc. Mais c'est vrai que c'est bien d'en parler.
Parce qu'on a beaucoup de gens, on l'a en mémoire, cette scène justement de Dumbo qui est ivre et tout ça. Et il y a plusieurs choses par rapport à ça ou par rapport à d'autres films, c'est que souvent. Les représentations, la représentation de l'ivresse, la première fois où on va y être confronté enfant, ça sera au cinéma, ça sera via une scène. Et là, par exemple, Dumbo, quand même, qui est un film pour enfants, ou même des années plus tard dans E.T., une scène super importante pour montrer la connexion qu'ils ont, les gamins. T'as E.T. qui se prend une bière, et t'as le gamin qui se prend une murge, du coup. Et c'est super important, parce que là, en plus, on est dans un gamin qui est bourré, quand même. Il n'y a que Spielberg qui arrive à le faire avec une certaine caution morale, on va dire.
Et dans Robin des Bois,
Juliette avec Romain,
le dessin animé.
C'est ça, donc on a souvent,
serpent,
dès plus jeune âge, été confronté, oui, tout à fait, qui Persifleur.
Et
en fait, c'est ça, finalement, la première confrontation, à moins, hélas, si on a des parents alcooliques, ou ça peut être, hélas, très dur selon voilà, les situations, mais en termes de cinéma, souvent, on se retrouve, c'est la première, c'est comme ça qu'on est confronté pour la première fois, c'est via une séquence de cinéma.
Et au final, voilà. C'est une séquence plutôt drôle.
Et oui, et c'est souvent parce que ça appelle justement un catalyseur comique. C'est tout pour
on voulait cool. Parcourir des scènes d'ivresse au cinéma. Moi, je vous proposais, pour finir avec le cinéma français, un dernier extrait, une partie de la bande-annonce de Nuit d'ivresse, qui est peut-être le dernier film français à avoir évoqué cet alcool hors sol. Justement, on se pose pas de questions par rapport au fait d'être ivre.
Tu veux que je te la rende, mon pote, ta montre de Mathieu?
Bah écoutez, je ne dis pas non, figurez-vous.
Bon, ouais, bah je vais te la rendre, ta montre. Bah, tiens,
avec plaisir. Merci beaucoup. Oula, salope. Et puis pour les montres, j'en ai rien à foutre, j'en ai pas d'autres.
Quel couple charmant.
Vous me faites chier.
C'est une chance qu'on s'est rencontrés.
Ah oui, il y a des mecs qui sont vernis. Hein.
Il a picolé un peu.
Alors, Nuit d'ivresse, c'est très intéressant, c'est adapté d'une pièce de théâtre, mais il y a cette scène absolument mythique où Belin, le personnage de Thierry Lhermitte, qui est un présentateur de télé, arrive complètement sous une soirée, un cocktail, un pince-fesse, justement, pour sa chaîne de télé, et il renverse absolument toute la soirée au point de se faire virer. Alors, je disais tout à l'heure que c'était hors sol, non, il y a des conséquences, hein, il se fait renvoyer, il est confronté à son alcoolisme et à cette ivresse, justement, complètement dingue.
faire après. Là,
voilà,
là,
il découvre l'amour avec le personnage de Josiane Balasko, mais il perd quand même énormément. Et Nude Ivresse, c'était peut-être, en tout cas, bah, voilà, la question pourra se poser, mais on a parlé énormément d'Ivresse, parce que c'était un thème très très vaste aujourd'hui. Était peut-être le dernier film français, voilà, à vouloir rigoler ouvertement du fait d'être ivre, évidemment avec des réserves morales, notamment cette scène où Josiane Balasko se met à faire la majorette dans le parking, alors qu'il lui dit arrête, je suis bourré, je me fous ta gueule. Il y a toujours cet aspect-là qui raccroche le film et qui en fait, on a fait un film culte, tant bien que mal évidemment, dans les années 80. Et c'était avec celui-ci que je voulais finir l'image de l'ivresse au cinéma, en tout cas dans le cinéma français, et le différent traitement de l'ivresse au cinéma. Ce qui m'amène directement à une autre forme d'ivresse, l'ivresse d'avoir Loïc à côté de moi, les petits poils qui poussent. C'est ce côté-là, c'est cette tension, c'est cette folie qui est la nôtre, c'est celle de la virgule du lendemain, avec laquelle on arrive dans la toute dernière partie de l'émission, puisque on rappelle, la virgule du lendemain, c'est un homme qui voit et qui critique les films avant même de les avoir vus, sans avoir même besoin de les voir et d'aller en salle.
Mais exactement, et comme on se sent bien chez soi dans ces émissions de cinéma où l'alcool, les potes et la bonne humeur sortent chacun de leurs flacons pour former un assemblage merveilleux, un élixir magique, j'ai nommé Graffiti Cinéma.
Je t'aime, Loïc.
Et moi, dans ce breuvage complexe, je suis celui qui voit les films sans les voir, celui qui voit à travers ou de travers, ça dépend. Virgule du lendemain, la virgule du lendemain est à consommer avec modération. Elle a un effet désinhibant, et si elle n'est pas déconseillée aux femmes enceintes, il est raisonnable d'éloigner les enfants. Aujourd'hui, Anne Goscinny nous pose une sacrée question. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Bah oui, tiens, gros faisant que nous sommes, on n'y avait pas pensé en fait. Alors, moi je veux bien être heureux, mais à tant que je prenne mon agenda, alors là, faut que je termine mon boulot en urgence. Après, je vais chercher les enfants à l'école, faut que je fasse à dîner, que je paye mes impôts, que je sorte le chien, que je retrouve ces putains de clés de garage. Mais alors, juste après, promis, on pourra être heureux. Alors ok, faudra pas être trop tatillon, hein, s'il y en a qui trouvent malaisant d'être heureux quand les Ukrainiens se font défoncer la gueule, s'il y en a qui ont la nausée en voyant d'un côté ceux qui se gavent en dépensant des millions en conneries diverses et quand de l'autre côté il y en a qui s'agitent et qui galèrent pour trouver à bouffer, à se loger, voilà, c'est comme ça. Ceux pour qui ça gratte un peu la violence, la bêtise, la haine, les concours de paix et celui qui a la plus grande le concours de celui qui a la plus grande, je suis désolé.
La plus grande.
Alors attends, je reprends mon agenda. On va devoir remettre du coup l'activité être heureux à beaucoup 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 plus tard. Ou alors on ressort le petit Nicolas. Lequel me dites-vous ? Eh bien, pas l'ancien président de la République, hein, parce que lui, on n'a pas forcément tous les moyens d'être heureux avec lui. Non, pas Nicolas Sirkis non plus, je te vois, non. Parce que lui, le bonheur, on n'est pas tout à fait sur le même circuit. Je vous passe le Nicolas de William Scheller, vous savez, celui qui ne veut pas qu'on l'embête, tout ce qu'il a dans la tête, c'est qu'il veut rentrer chez lui. Non, lui aussi, il est à se pendre. Alors, je vous vois bien tenter le Nicolas Hulot, qui, festival de bière oblige, ne refusez pas de taquiner la gueuse, mais derrière la mousse du gel douche Ushuaïa, il y a une véritable amertume nauséabonde de violence sexuelle. Non, juste le petit Nicolas, celui de Sempé et Goscinny. On revient à l'époque des vieux de la vieille, des tontons flingueurs, des années 50-60, cette âme 50s chantée par Alain Souchon qui étale le bonheur distant sur une tartine de nostalgie, cette distance qui nous permet de ne retenir que l'écume du souvenir, la partie heureuse de l'iceberg, la partie mousseuse de la Carlsberg, si vous préférez. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec le petit Nicolas, c'est regarder les vieilles photos lovées sur son canapé sous un plaid, un verre de vin à la main, dans une ambiance tamisée et le fameux c'était mieux avant. Le petit Nicolas, c'est régressif, c'est zémourien, mais si ça nous rappelle que la vie plus simple, moins connectée aux outils numériques et davantage aux humains qui nous entourent, alors oui, peut-être qu'être heureux est à portée de volonté. Et donc, commençons par cet apéritif cinématographique et on changera le monde en sortant de la salle.
Merci beaucoup Loïc, c'était vraiment très plaisant comme d'habitude. On se marre avec du beau français et en parlant d'ivresse, donc du coup c'est très très bien de pouvoir finir l'émission avec ça. Il nous reste, pour finir justement dans la foulée, un quiz, Juliette, et j'espère que tu seras au niveau. T'as le coup de pression complètement gratuit. un quiz autour de l'ivresse au cinéma. Juliette, oui. Tu nous as préparé ça et c'est avec ce quiz, justement, nous autour des micros et évidemment vous-même devant le poste, vous pouvez également jouer, qu'on va finir l'émission cette semaine sur l'ivresse au Campo Santo pendant l'Orléans Bière Festival.
Donc, un petit quiz alcool et film. Je vous donne une petite recette de cocktail ou d'alcool et puis vous me retrouvez le film. Donc, pour environ 5 verres, vous mélangez 15 centilitres de whisky, 15 centilitres de cognac, 5 centilitres de mezcal, 5 centilitres de calvados, 5 centilitres de sirop de sucre, un jus de citron et surtout, surtout, 5 centilitres de jus de betterave cuite.
Ça fait vachement de centilitres quand même. Quoi.
Attention, c'est plutôt une boisson d'homme. On est sur du bizarre.
C'est de l'alcool, oui.
Il y a des clients qui sont devenus aveugles.
Oui, j'en connais une polonaise qui en buvait.
Matins. Flingueurs. Voilà, les tontons flingueurs.
Donc je prends le point en fait là.
Et oui, un point. C'est toi qui notes les points d'ailleurs.
Ça me dérange pas.
Je ne sais pas noter les points en même temps que le quiz.
Oui, ça marche.
Attention. Dans un verre old fashioned, garni de glaçons, versez votre whisky Suntory Ibiki, 17 ans d'âge, dont Bill Murray nous dit For relaxing time.
Lost in translation.
Oh, je suis génial. Make it Suntory time. Mais oui,
allez, bonjour, Geoffrey.
Geoffrey avait trouvé avant moi, mais il n'avait pas de micro.
Ah, donc, pas de bol.
Donc le mec perd, quoi.
Alors, attention. Maître du Mozart ? Oui, mais lequel ? Le dernier, puis hésiter entre un whisky et juste un doigt.
Eh bien, là, c'est de la peur. C'était de la peur. Ouais, on va le donner à Milan, sinon il n'aura pas de points, il va encore.
Dans un shaker, versez sur des glaçons 6 centilitres de vodka et 1 centilitre de martini.
Mais non.
Mélangez énergiquement, puis versez dans un verre à cocktail.
Casino Royale ?
Oui, James Bond, à peu près James tous les Bond, James Bond.
Okay. Casino Royale, c'est le Vesper.
Ouais, attention, c'est dans Vesper, Casino Royale, ouais. Justement, c'est le Vesper.
Oui, je l'aurais dit, ça, d'ailleurs. Je t'en prie.
C'est un super scooter, ça. Dans...
Elle est très violente, cette blague.
Non, elle est bien.
Elle nous fait du mal, physiquement.
Un demi-point.
Allez, une petite... il nous reste une minute à peu près.
D'accord, je me dépêche. Dans un verre type tumbler, versez 6 centilitres de tequila sur des glaçons complétés avec 12 centilitres de jus d'orange et versez doucement 2 centilitres de jus de grenadine, de sirop de grenadine.
Oh la vache.
Ah, c'est un classique.
Transformers.
Non, un film avec Mel Gibson.
Tequila Sunrise.
Yes.
Non, je l'avais dit. Thomas.
Voilà, Thomas, c'est parfait. Attention, une larme de gin, une rivière de tonique et ensuite la petite victime composée d'une petite...
C'est dans les boîtes de vous.
J'ai dit aussi. Oui, c'était bien ça.
Oui, mais je l'ai dit mieux.
Ça manquait de consonne. Clairement, je l'ai dit avant. Donc, je me mets le point parce que je me suis bien aimé sur cette réponse.
Je trouve que Thomas est très fort sur ce quiz.
Thomas est très fort, ouais.
Pour l'alcool en général.
Dans un verre old fashion rempli de glaçons, versez 5 centilitres de vodka, deux liqueurs de café et 3 centilitres de
russe blanc. Le russe blanc.
Alors on finit la recette pour ceux qui veulent le faire chez eux, 3 centilitres de crème fraîche liquide frappée et ne soyez pas trop regardant sur le dosage pour votre russe blanc façon The Dude.
Bien sentir la crème avant aussi.
Ça tombe bien, c'est un de mes 3 films préférés, donc j'ai gagné ce quiz et je suis très content.
Non, il reste 2 questions. Attends.
Allez, vas-y, fais deux questions. Ça me fera du montage en plus, mais c'est pas grave.
Oui, ça te fait du montage. C'est pour Milan. Milan, attention, c'est pour toi. Dans une bière blanche portée à ébullition, ajoutez un mélange de beurre fondu, de sucre et d'épices.
Harry Potter.
Voilà.
Harry Potter, oui, c'est ça.
Ah, bah oui, c'est ça, j'ai bien.
Pourquoi c'est absolument dégueulasse.
Et attention, la dernière, celui-là, il est mythique. Faire sécher un crapaud, le rentrer dans une bouteille.
Les bronzés vont dire oui.
C'est Geoffrey qui. Ça débouche la chiotte.
Donc on dit je suis ex-écho avec Geoffrey, donc
donc
c'est pas grave, on se rattrapera les semaines suivantes. Mais je suis un peu déçu quand même,
Merci beaucoup en tout cas, c'était l'ivresse au cinéma. La semaine prochaine on se retrouve avec The Drunk de Thomas Vinterberg, enregistré dans le même lieu, dans les mêmes conditions. Merci beaucoup les amis,
merci,
autour de la table, et on se retrouve très bientôt.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Non, pourquoi vous faites ça?